Eleições Regionais e Departamentais 2021. Edição especial com Daniel Ribeiro.
Olá de novo, bom dia a todos. Cá estamos de novo para mais um programa especial sobre as eleições regionais e departamentais em França. Primeira volta dia 20, segunda volta dia 27. E eu tenho o prazer, o grande prazer, de receber hoje a Rodrigo no nosso estúdio, Audrey Pilvar.
Bonjour à toutes et tous.
Audrey, vous êtes une ancienne journaliste.
Oui.
Vous êtes une très très bonne journaliste.
Ah, merci.
Bienvenue à cette radio. On essaie aussi de faire du journalisme très bon.
Oui, qualité. Mais j'en doute pas un seul instant.
Et vous êtes une très bonne journaliste. Pourquoi une bonne journaliste décide de devenir candidate au régional français, donc devenir politicienne?
Je vais vous répondre. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir faire cette interview en portugais, mais je comprends.
Mais vous pouvez dire bon dia.
Voilà, je comprends votre langue, mais enfin, cette langue, le portugais, parce que vous en avez deux, le portugais et le français. Mais je crois que les deux seuls mots que je connaisse en portugais, c'est obrigada, obrigado, bien sûr, et puis bachou, je crois. Voilà. Bon, ça peut servir dans la vie. Non, je réponds à votre
question.
À votre question. Alors d'abord, je ne suis pas passée de journaliste à candidate aux élections régionales en une fois. J'ai quitté le métier de journaliste en juillet 2017, après les élections présidentielles et législatives de 2017. J'ai démissionné de toutes mes fonctions de journaliste et j'ai pris la présidence bénévole de la Fondation Nicolas Hulot, parce que je me suis mise au service de l'intérêt général et de la lutte contre le réchauffement climatique, pour la préservation de la biodiversité et pour la justice sociale. Et en 2020, donc c'est-à-dire 3 ans après avoir quitté le journalisme, je me suis engagée auprès d'Anne Hidalgo pour les municipales.
Nous connaissons très bien ici.
Que vous connaissez
radio,
très bien, absolument.
Parce qu'elle vient souvent parler à cette radio.
Oui, et je suis adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo. J'ai été élue avec elle à Paris au municipal. Et maintenant, candidate à la présidence de la région Île-de-France. Mais entre le journalisme et la politique, j'ai mis quand même quasiment 4 ans
au service. Une période de transition.
Voilà, au service. Parce que ça me semble... Je pense que j'aurais pas pu passer... D'abord, j'avais pas le projet de faire de la politique. Et j'aurais pas pu passer de l'un à l'autre comme ça, du jour au lendemain. Je pense qu'il fallait vraiment passer par un autre stade.
Vous êtes candidate avec le Parti Socialiste quand même.
Oui.
Mais vous avez la réputation d'être écologique,
oui,
écologiste,
oui,
et aussi féministe.
Absolument, absolument. Mais vous savez, on peut être socialiste, écologiste et féministe à
bien
la fois.
Bien sûr, même n'importe qui, même un homme.
Mais bien sûr, absolument. Il y a des hommes féministes et toutes les femmes ne sont pas féministes. Il y a des femmes qui ne sont pas féministes et il y a des hommes féministes. Donc, moi, je suis une candidate de la société civile. Je n'ai pas ma carte dans aucun parti. Je n'ai ma carte, mais je suis soutenue par des partis politiques. Mais je suis une candidate de la société civile.
Candidate indépendante, on peut dire.
Voilà, et cette liste Île-de-France en commun que je mène pour les élections régionales, elle est composée aussi d'autres personnes de la société civile et elle est soutenue par plusieurs partis politiques, dont le Parti Socialiste, donc Parti Socialiste, le Parti des Radicaux de Gauche, Place Publique, les Écolos Solidaires, le MRC, la GRS, la Gauche Républicaine et Solidaire. Et... le fait d'être soutenu par tous ces partis politiques, évidemment, c'est un honneur et une obligation pour moi. Et c'était important pour moi de composer une liste sur laquelle il y a à la fois des représentants de tous ces partis politiques qui nous soutiennent et beaucoup aussi de représentants de la société civile. Parce que nous voulons proposer une façon d'exercer la politique un peu différente en y associant beaucoup plus les citoyennes et les citoyens.
Quels sont vos objectifs pour ces élections dimanche prochain, je l'ai dit.
L'objectif, c'est de gagner.
Oui, j'espère, mais oui. Pour vous. Mais pour le prochain dimanche, c'est le premier tour.
Alors dimanche prochain, c'est
ça
le premier tour.
Ça commence pour passer au deuxième tour.
Oui, dimanche prochain, c'est le premier tour. Et l'objectif pour moi, c'est d'être en tête des votes au premier tour dimanche prochain. Nous, ce que nous proposons à Île-de-France en commun, notre mesure phare, c'est la gratuité des transports en commun pour l'ensemble des franciliennes et des franciliens. Au fur et à mesure, on va commencer le 1er septembre par les jeunes, les moins de 18 ans, les 18-25 ans qui sont étudiants, demandeurs d'emploi ou en parcours d'insertion. Donc c'est déjà quasiment 1 500 000 jeunes dès le 1er septembre pourront prendre les transports en commun gratuitement sur l'ensemble de l'Île-de-France.
D'immédiat, les plus jeunes. Jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 18 ans. Alors,
après
gratuité à partir du 1er septembre pour les moins de 18 ans, tous les jeunes de moins de 18 ans sur l'ensemble de l'Île-de-France, et pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les jeunes en parcours d'insertion qui ont entre 18 et 25 ans. L'année prochaine, ce que nous proposons, c'est d'étendre encore cette gratuité aux personnes âgées et aux personnes qui sont en situation de handicap. L'année d'après, pour tous les bénéficiaires des minima sociaux et tous les demandeurs d'emploi. Et puis, au fur et à mesure des années, on va l'étendre à tous les publics pour arriver en 2026 à ce que toutes les franciliennes... Et tous les franciliens, la gratuité totale.
Et ça se fera comment au niveau du financement?
Alors, au niveau du financement... Il faut comprendre que dans le budget d'Île-de-France Mobilité, donc qui régissent les transports en Île-de-France, il y a ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Ce que payent les voyageurs et les voyageuses dans les transports en commun, ça finance ce qu'on appelle le fonctionnement, une partie du fonctionnement. Et l'investissement, c'est-à-dire le fait de créer de nouvelles lignes, améliorer le matériel, améliorer les bus, les tramways, les trains, le fait de mieux desservir le territoire, de mieux connecter les trains.
On parle de toute
l'île de France.
C'est une grande, énorme région.
Absolument. Le fait de mieux connecter le train, le tram, les bus et le réseau routier et le réseau vélo, tout ça, c'est de l'investissement et ça va continuer. Ça sera toujours financé sur le fonctionnement et la billetterie pour faire face à cette recette, ces recettes qu'il va falloir trouver. On veut mettre en place une fiscalité écologique régionale sur le transport routier de marchandises. Donc, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui sera touché. Et sur les grandes fortunes immobilières d'Île-de-France. Parce que vous savez, quand on a supprimé l'impôt sur la fortune, l'ISF, ça a été 3 milliards de recettes en moins chaque année pour l'État, dont 1,5 milliard qui provenait de l'Île-de-France. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les grandes fortunes immobilières d'Île-de-France
puisse contribuer. Donc, ça sera
ce sera une forme de restitution de l'impôt sur la fortune, absolument. Par ailleurs, si vous voulez, moi, vous savez, la région Île-de-France produit chaque année 670 milliards d'euros de richesses. On produit, le fruit de notre travail produit 670 milliards d'euros de richesses. Et là, il faut en trouver 2,5 milliards pour mettre les transports gratuits pour tout le monde. Je pense qu'on peut
donc
y arriver.
Donc c'est faisable.
Oui, je crois que c'est une question d'ambition et de cap politique.
Même avec le Grand Paris, le grand projet, le Grand Paris avec les nouvelles lignes, les nouvelles gares, tout ça. Que pensez-vous de ce projet en termes concrets?
Je pense qu'en termes d'aménagement du territoire et en termes de mobilité, c'est très bien parce qu'on met plus de trains à disposition de plus de monde. Donc ça fait la possibilité de se déplacer en transport en commun, de ne plus être dépendant de la voiture. Et puis ces gares, il faut que ça devienne des lieux de vie où on installe, quand c'est possible, c'est pas possible partout, mais quand c'est possible, du logement, des incubateurs pour les start-up, des lieux pour l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des ressourceries, des recycleries,
donc c'est une chance,
lieux de vie et de coworking.
Le Grand Paris, c'est un...
Je considère que c'est une chance. En revanche, le Charles de Gaulle Express, ça c'est autre chose qui faisait aussi partie des projets d'aménagement. Le Charles de Gaulle Express, je suis contre. Mais le Grand Paris Express, c'est un train à grande vitesse, assez rapide, qui est censé relier Paris à l'aéroport de Charles de Gaulle pour des tarifs qui sont extrêmement élevés et qui ne va pas, ça va pas concerner les franciliennes et les franciliens, ça va concerner un tout petit
touristes.
Nombre de personnes qui peuvent utiliser d'autres trains, mais les moyens qui sont mis sur ces travaux-là, c'est des moyens qu'on pourrait mettre pour améliorer notamment la ligne RER B, améliorer l'existant, parce que sur la ligne RER B, qui est empruntée tous les jours par 1 million de franciliennes et de franciliens, tous les jours sur la RER B, il y a énormément de difficultés à régler et on a besoin d'argent pour ça. Donc j'aurais préféré que l'argent du Charles de Gaulle Express serve à améliorer les services du RER B.
Le Grand Paris, mais ça peut contribuer aussi pour lier les banlieues, ça veut dire
oui, mais
au niveau horizontal.
Absolument. Mais je trouve que c'est un bon projet.
La grande métropole, mais c'est aussi un sujet intéressant. Non?
Absolument, oui.
Parce qu'il y a un déficit de liaison entre les banlieues.
Entre les départements et entre les banlieues, absolument. Par rapport à ce problème-là, nous, ce que nous proposons, c'est d'améliorer vraiment les dessertes en bus et en navette et en transport à la demande entre les départements, de réserver des voies sur les autoroutes urbaines au covoiturage et à l'autopartage pour favoriser les mobilités les moins polluantes, et puis de faire beaucoup d'infrastructures vélo, beaucoup d'équipements vélo, pour que toutes celles et tous ceux qui veulent se déplacer à vélo puissent le faire en toute sécurité.
Donc écologiste à fond.
À fond.
Du point de vue du transport.
Mais une écologie...
En utilisant aussi les trains, etc.
Absolument, absolument. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, enfin, nous, ce que nous défendons, c'est vraiment une écologie pour lutter contre les inégalités. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, ils se font sentir surtout pour les personnes les plus démunies, pour les familles modestes, pour les artisans, pour les TPE, pour les classes moyennes. Ce sont les moins responsables du problème, c'est eux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, mais qui subissent le plus les effets. Et donc, pour moi, une politique écologiste responsable, c'est une politique qui se met d'abord au service de la lutte contre les inégalités. Ça veut dire qu'il faut accompagner. Il faut accompagner les classes modestes, il faut accompagner les familles, les classes moyennes, par exemple pour changer de véhicule, pour avoir un véhicule moins polluant, pour changer sa chaudière, pour mieux isoler son logement. C'est pour ça que nous allons lancer un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments, de réhabilitation du logement social, mais aussi aider les propriétaires privés à mieux isoler leur logement. C'est aussi tout ce que nous voulons mener comme politique sur la transformation de l'agriculture.
Donc l'écologie, les transports, oui.
Au service
des classes
moyennes.
C'est la question essentielle de votre programme.
C'est la question essentielle, mais à condition de vraiment voir ça comme une mesure qu'on prend pour rendre service et pour accompagner les familles modestes, les classes moyennes, les TPE, les artisans.
Donc vous voulez passer dimanche prochain au deuxième tour?
Ah ben oui, et je veux passer en tête.
Et après, pour battre la présidente sortante, oui. Valérie Pécresse, il faut l'union de toutes les gauches avec vous, non?
Il faut qu'on s'unisse sur un programme.
Vous êtes déjà en train de discuter?
Non, on n'a pas commencé les discussions. Il faut qu'on s'unisse sur un programme, il faut qu'on s'unisse sur des valeurs. Il faut qu'on soit sûr d'être d'accord sur nos valeurs et sur notre programme. La gratuité des transports, je suis la seule à la porter, à porter cette mesure.
Précisément, quelles sont les réactions des autres partis qui peuvent être votre partenaire au deuxième tour?
Ils sont d'accord pour faire la gratuité, mais à moitié seulement. C'est-à-dire seulement pour les jeunes, ou pas tout de suite, dans longtemps, etc. Moi, je voudrais qu'on s'engage vraiment sur le chemin de la gratuité des transports. Et donc, si les franciliennes et les franciliens veulent des transports en commun gratuits avant la fin du prochain mandat, il faut qu'ils votent pour Île-de-France en commun, Audrey Pulvar, dimanche prochain. Parce que moi, je veux porter la gratuité des transports en commun pour tous, et je suis la seule à porter cette mesure.
Pourquoi vous croyez que Valérie Pécresse, c'est battable?
Parce que son bilan
parce
est...
Elle est quand même en premier dans les sondages.
Elle est première dans les sondages au premier tour, mais au second tour, c'est beaucoup moins évident que ça. Et puis, son bilan est assez désastreux. Elle a divisé par deux le budget du logement social. Elle a baissé de 170 millions d'euros le budget sur les services de santé et une partie des services sociaux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 4 millions de franciliens, c'est-à-dire 1 sur 3, hein, il y a 12 millions de franciliens au total, 4 millions de franciliens ne peuvent pas avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste dans des délais raisonnables parce qu'il y a 1000 médecins de moins en Île-de-France depuis 2017. Valérie Pécresse a baissé considérablement les budgets dédiés à la santé et au social. Absolument, absolument. Elle a baissé les budgets sur le logement social. Elle a baissé les budgets sur les lycées, moins 20 euros par enfant et par année dans l'ensemble des lycées. Et le résultat, c'est que les lycées se dégradent. Il manque 10 000 places pour nos jeunes dans les lycées. Elle a baissé le financement aux missions locales et à tous les médiateurs qui font de l'insertion. Donc, vous avez plein de programmes d'insertion des jeunes et les emplois tremplins, par exemple, qu'elle a supprimés, qui ont été supprimés. Et donc, des jeunes qui n'ont plus la possibilité de suivre un certain nombre de formations. Donc voilà, si les franciliennes et les franciliens veulent du soutien pour la jeunesse, des mesures pour la jeunesse, la gratuité des transports, la relance du logement social et la rénovation énergétique des logements, y compris pour les propriétaires privés, eh bien, il faut qu'ils votent Île-de-France en commun.
Précisément sur la santé, tout à l'heure, j'ai interviewé Christian Favier.
Oui, président du conseil départemental.
Du conseil général de Val-de-Marne. Il me parlait précisément en disant que la région n'a pas trop appuyé pendant la crise sanitaire.
Mais oui, mais justement, la région a fait 500 millions d'euros d'économies pendant la crise sanitaire. C'est les résultats du budget 2020. C'est-à-dire que pendant l'année 2020, où on avait tellement besoin de solidarité, où on avait tellement besoin d'investissement de la région, par exemple pour les jeunes, des jeunes qui étaient, qui étaient obligés de faire appel à des associations pour manger, Madame Pécresse, elle a fait des économies. Donc elle a fait effectivement 500 millions d'euros d'économies, mais c'est autant d'argent qui n'a pas été mis pour la solidarité, pour les logements, pour l'aide alimentaire, pour l'aide à la formation, pour l'aide au transport. Et donc, nous, on porte, Madame Pécresse, elle porte l'austérité, nous, on porte la solidarité.
Vous pensez que Valérie Pécresse pense gagner ces élections si elle les gagne confortablement? Elle peut devenir une candidate potentielle présidentielle?
C'est très clair, elle n'a jamais fait mystère de ses intentions de se présenter aux élections en 2022, à l'élection présidentielle. Et c'est un problème, parce que les élections ont lieu fin juin. Si elle est élue et qu'elle est candidate aux élections présidentielles, elle devra se déclarer au mois de septembre. Donc ça veut dire qu'elle aura présidé la région pendant 6 à 7 semaines, dont les congés du mois d'août. Ça fait pas beaucoup, vu les enjeux qu'il y a dans la région. Et c'est pour ça que je dis que moi, je n'ai pas d'agenda caché. Je ne joue pas une autre élection. Je me présente à l'élection, à la présidence du Conseil régional d'Île-de-France pour être présidente du Conseil régional d'Île-de-France pendant tout le mandat. Et je ne vais pas me présenter à une autre élection dans 6 mois.
Je profite de votre présence ici parce que vous avez une vision générale de la France.
Oui.
Et pendant ces élections régionales, il y a en gros 3 grandes régions où ça peut se passer, ça peut être compliqué, notamment avec l'extrême droite.
Oui.
Vous êtes d'accord? PACA, Hauts-de-France et Île-de-France, non, mais.
Un peu moins.
Un peu moins. Mais c'est ça.
C'est Auvergne aussi, Auvergne-en-Alpes.
Ouais. Ça serait pour la France un problème, même pour l'Europe, par exemple.
Ce serait évidemment un très grand problème.
Si PACA tombe.
Ce serait vraiment. Ce serait un symbole terrible. Ce serait un symbole terrible si la Provence-Alpes-Côte d'Azur était dirigée par l'extrême droite et évidemment perspective des élections.
Marine Le Pen pourrait être.
Oui, mais c'est un grand danger. Il ne faut pas se tromper sur le fait que le Rassemblement national, c'est le Front National. Il n'a pas changé. Ça reste un parti anti-républicain, un parti qui est toujours aussi xénophobe, qui reste un parti d'extrême droite. Et moi, j'appelle à un sursaut républicain face à ce parti d'extrême droite. Moi, j'ai toujours dit que je serai toujours du côté de la République et je serai toujours contre l'extrême droite. Et s'il faut pour cela voter, y compris pour des gens qui ne sont pas de ma famille politique, mais qui peuvent empêcher à l'extrême droite d'arriver au pouvoir, eh bien, je le ferai parce que il est très important que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Parce que quand elle arrive au pouvoir, on ne sait pas quand elle le rend. Vous faites partie de la communauté des Français portugais ou des Français d'origine portugaise ou des Portugais de France. Votre pays sait ce que c'est qu'un gouvernement d'extrême droite.
Oui, je l'ai connu.
Quand l'extrême droite prend le pouvoir, on ne sait pas quand elle nous le rend. Et l'extrême droite d'aujourd'hui en France, c'est toujours la même extrême droite. Elle n'est pas moins extrême droite qu'il y a 60 ans, 40 ans ou 30 ans. Et donc, c'est important que chacune et chacun fasse barrage à l'extrême droite, quoi que cela implique comme vote.
Comment voyez-vous Emmanuel Macron ? C'est un homme de droite ? Complètement à droite maintenant ?
Depuis le début de son quinquennat, il pratique une politique de droite, oui. C'est un bon candidat pour la droite.
Vous êtes candidate avec le Parti Socialiste. Mm-hmm. Le Parti Socialiste est en crise depuis le mandat de François Hollande.
Mm-hmm. Ça va mieux maintenant.
Ça
va mieux. Ah oui, il y a une époque où le Parti Socialiste ne pouvait pas aller manifester sans se faire huer, etc. Maintenant, c'est très différent. Les municipales, les dernières municipales ont montré que les candidats socialistes pouvaient l'emporter, évidemment à Paris, mais dans beaucoup d'autres villes, je pense à Montpellier par exemple, à Nantes évidemment avec Johanna Roland, et dans beaucoup d'autres villes de France, y compris des grandes villes comme Nantes, Paris et Montpellier, eh bien il y a des élus socialistes à Marseille avec le grand mouvement d'union des gauches qu'il y a eu à Marseille, et Benoît Payan qui est maintenant maire de Marseille. Je pense que le Parti Socialiste va mieux.
Pas mieux.
Mais il faut demander au Parti Socialiste, parce que moi, je ne suis pas socialiste.
Oui, mais vous êtes en contact permanent, notamment avec Anne Hidalgo.
Oui, bien sûr.
Donc, pour la région, vous êtes tranquille, vous êtes dans une phase ascendante de votre campagne?
Absolument. Écoutez, je me bats jusqu'à la dernière. Vous savez, c'est comme les matchs de foot. On va avoir un beau match de foot la semaine prochaine. C'est comme les matchs de foot. Les élections, c'est jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute des arrêts de jeu. On ne sait jamais, il peut y avoir un but en or à la dernière seconde. Donc, on y va jusqu'au bout.
Donc, pour le prochain 23, je crois, il y a France-Portugal.
Voilà. Je ne vais pas vous donner mon pronostic.
Nous, ici, normalement,
mais France-Portugal, c'est un derby. C'est un derby. Puisque
c'est un derby entre amis aussi.
Mais oui, voilà, la communauté, encore une fois, les Français-Portugais, les Français d'origine portugaise, parce que maintenant, il y a des Portugais sont arrivés en France en grand nombre pour les raisons qu'on sait. Ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants, donc qui sont français depuis deux générations. Ce n'est pas des immigrés de la deuxième génération, c'est des Français depuis deux générations. Donc, c'est des Français d'origine portugaise qui sont nombreux. Il y a des Portugais qui vivent en France et depuis vraiment assez longtemps pour que nos deux pays soient frères. Donc, Portugal-France, c'est un derby et on est content de toute façon, quel que soit le résultat.
On arrive à la fin de notre interview, précisément.
Dites-moi,
pour ces électeurs, nous on parle des électeurs d'origine portugaise, mais il y en a des Français qui nous écoutent aussi. Mais pour ceux qui nous écoutent en ce moment, vous dites quoi? Allez voter à cause pour lutter contre l'abstention, par exemple, ou vous dites allez voter et votez pour moi?
Je leur dis les deux. D'abord, il faut vraiment, quel que soit votre vote, il faut vraiment aller voter dimanche. Parce que quand on s'abstient, ce sont les extrêmes qui montent. Parce que les extrémistes, eux, ils vont toujours voter. Donc si on veut éviter que l'extrême droite soit très haut, il faut impérativement aller voter. Et après, évidemment, si vous votez pour moi, c'est encore mieux. Si vous voulez voter pour la gratuité des transports en commun, il y a un bulletin dimanche prochain, c'est Île-de-France en commun.
Et par d'autres projets que vous avez présentés.
Et d'autres projets que je porte, évidemment. C'est Île-de-France en commun. Et puis, notre mouvement est celui qui est le plus à même de battre Valérie Pécresse au deuxième tour. Donc, il faut nous mettre le plus haut possible dimanche prochain. On appelle ça le vote utile, pour qu'on soit en bonne position
Donc
pour battre Valérie Pécresse.
Donc, vous êtes le vote utile.
Le vote utile, c'est nous, absolument.
Eh bien, Audrey Pouvoir, merci beaucoup d'être venu.
Obrigada.
Obrigado, eu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici à Valentin.
Merci à vous.
À Radio Alpha, parce que c'était un plaisir de vous recevoir depuis longtemps que je vous apprécie comme journaliste, comme politique, on verra.
On verra. Il faut que je fasse mes preuves.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
Peut-être au deuxième tour.
Mais j'espère bien, je reviendrai.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bon dia a todos, boa continuação aos ouvintes do Bom Dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Eleições regionais e departamentais 2021 para acompanhar na rádio que nos liga. Rádio Alfa.